Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, Vittoria Colizza.
Bonjour Vittoria Colizza. Et merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Effectivement, vous êtes épidémiologiste rattaché à l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Vous travaillez sur les modélisations, vous étudiez la propagation du coronavirus et de ses variants, et donc vous testez des scénarios. Est-ce que vous pouvez nous dire, Vittoria Colizza, ce matin, s'il existe un scénario qui entrevoit la réouverture progressive des terrasses, des commerces, des lieux de culture en France à partir de la mi-mai, c'est-à-dire dans un peu moins de 3 semaines. Est-ce que vous voyez ça dans vos données mathématiques?
Alors, je pense que ça dépend des conditions auxquelles on veut se retrouver à la réouverture. Donc, quels sont les objectifs d'un point de vue sanitaire et épidémiologique pour ouvrir? Aujourd'hui, ce qu'on voit sur les données, il faut se rappeler qu'il y a toujours 2 indicateurs qui sont très importants. Le premier indicateur est la vitesse de propagation. Donc, c'est R effective. Et si on a cette R effective qui est en dessous de 1, on se trouve dans une descente de l'épidémie, ce qui est très important. Donc la dynamique est très importante. L'autre indicateur est l'incidence. Donc à quel niveau on se trouve? Si on se trouve à un niveau d'incidence élevé ou à un niveau d'incidence plus faible? Aujourd'hui, les données nous indiquent qu'on a passé un pic, plus ou moins vers le début du mois d'avril, après la première semaine, et on est en descente. Mais cette descente est assez lente et en même temps, on se trouve à un niveau d'incidence assez élevé. R effective est estimé autour de 0,9. Donc, c'est pas une descente formidable.
On est trop près de 1, on serait plus à l'aise vers 0,7.
Sans doute. Alors, avec 0,9, ça veut dire qu'il nous faut un mois pour arriver, pour diviser par 2, par exemple, plus ou moins. Oui. Divisé par 2 le nombre de cas. Aujourd'hui, on se trouve à 30 000 cas par jour. Et à la sortie du deuxième confinement, on avait 10 000. Donc, oui, c'est un tiers, c'est pas la moitié.
Donc, ça, vous c'est prématuré, selon vous, d'envisager de rouvrir à la mi-mai.
Alors, qu'il faut s'attendre est déjà qu'on a rouvert les écoles aujourd'hui, donc oui, ça va entraîner quand même plus de circulation des personnes, plus des contacts possibles, plus d'opportunités pour les virus de se propager. Ça, c'est assez inévitable. C'est pas seulement la circulation dans les écoles, bien évidemment, mais c'est tout ce qui, que l'ouverture des écoles entraîne en termes de contacts que si les élèves pourraient faire en dehors de l'école, les déplacements des parents, de personnel, des enseignantes, etc. Et donc, ce qu'on pourrait, avec une ouverture, c'est qu'il faut s'attendre à une diminution, donc un ralentissement de cette descente. Qui déjà, n'étant pas si forte que ça, ça pourrait entraîner, ça pourrait nous porter vers un plateau, qui d'ailleurs, on a déjà connu à la sortie du deuxième confinement.
Oui, d'accord. Donc, ça veut dire que ce n'était pas une très bonne idée de rouvrir si tôt les écoles? Alors, en tout cas, vous auriez préféré peut-être que l'école reste encore un lieu protégé?
Et à nouveau, ça dépend tous des objectifs, dans le sens que si on veut rouvrir certains lieux qui sont des lieux sociaux, il faut aussi se préparer pour éviter que ça puisse empirer la situation épidémiologique.
Ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'on ne fait pas suffisamment pour freiner l'épidémie en ce moment.
La descente est très très lente. On n'est pas dans des conditions de descente qu'on avait par exemple regardé sur l'Irlande, le Royaume-Uni, qui ont mis en place un confinement strict avec l'école fermée, qui avait donné des R effectives autour de 0,7. Ça veut dire qu'après 2 semaines, on se retrouve à la moitié des cas. Donc nous, on va plus lentement. Et à chaque fois qu'on va revenir, on devrait mettre en place des mesures qui sont aussi proactives pour pouvoir mettre vraiment en sécurité d'un point de vue sanitaire, c'est ce lieu qu'on va ouvrir. Dans les écoles, notamment, on pourrait mettre en place un dépistage itératif.
On va y revenir. Je voudrais juste savoir comment vous pouvez expliquer cette faiblesse, cette lenteur que vous expliquez. D'où ça vient? Est-ce que c'est parce qu'on teste moins? Est-ce que c'est parce que le couvre-feu n'est pas suffisamment tôt? Quelles sont les raisons?
Les mesures sont moins strictes par rapport à ce qu'on avait déjà mis en place. Si on fait des comparatifs, par exemple, entre ce qu'on a mis en place aujourd'hui, les premiers confinements, il y a il y a bien évidemment des différences énormes. C'est moins restrictif. On a plus de possibilités de sortir. On a bien évidemment, on a essayé de distinguer entre contact à l'intérieur et contact à l'extérieur, ce qui est une très bonne chose parce qu'on sait que les contacts à l'extérieur ont moins de risques de propagation. Mais bien évidemment, la circulation est si élevée que pour pouvoir, les taux d'incidence est si élevé que pour pouvoir les baisser rapidement, on a besoin de mesures peut-être plus fortes que ça.
Plus strictes.
Plus strictes pour les faire baisser plus rapidement.
C'est-à-dire qu'il aurait mieux fallu faire un confinement strict et long, un peu comme en Grande-Bretagne d'ailleurs, plutôt que nous des semi-confinements, des stop and go et qui font finalement durer, qui sont pas suffisamment restrictifs.
Alors, il y a des avantages et des avantages dans les, dans les deux directions. Si on fait un confinement strict, bien évidemment, le désavantage qui va avoir un impact très fort d'un point de vue social et aussi économique, parce qu'on va fermer plus de choses. On est coincé à fermer plus de choses. Mais en même temps, on a une réduction beaucoup plus rapide. Donc, on peut atteindre des objectifs qui sont plus gérables d'un point de vue épidémiologique, aussi avec tester, tracer, isoler, qui marchent comme mesure de freinage quand l'incidence est très faible, pas à ce niveau d'incidence qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas en train de vraiment de retracer les chaînes de transmission. On trouve des cas, on les isole, et après on trouve des contacts, on les isole, mais on n'est pas vraiment en train de suivre les chaînes de transmission, on ne peut pas les faire. On a trop, un niveau d'incidence trop élevé. L'autre, et l'avantage aussi, est pas seulement de baisser les courbes si rapidement, mais aussi de garder ces mesures moins longtemps. Et surtout aujourd'hui, parce qu'on a la vaccination qui nous entraîne vers une perspective des relâchements, d'ouverture. Par contre, si on garde des mesures qui sont plus modérées, alors l'avantage, sans doute, d'un point de vue social, est qu'on a plus de liberté, mais en même temps, on va les garder plus longtemps. Et là, il faut se rappeler qu'on est sous mesure d'un type ou un autre à partir de la fin d'octobre, pour certains départements, déjà à partir de la mi-octobre. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on est sur certaines contraintes qui deviennent, avec les temps, aussi lourdes que des contraintes plus strictes, mais pour moins.
Alors, vous insistiez sur l'école. L'école, vous pensez que c'est un des lieux aujourd'hui sur lesquels il faut se concentrer, là où l'on peut vraiment freiner l'épidémie ?
Oui, je pense surtout parce que si on a, l'objectif est clair, un objectif de garder les écoles ouvertes qui a énormément d'avantages, mais aussi des nécessités, bien évidemment, d'un point de vue social et économique, et des développements des enfants, et d'égalité, bien évidemment. Alors, pour les faire, on a des possibilités d'action qui sont plutôt proactives. Au lieu d'attendre de voir des cas, c'est la mesure à mettre en place. C'est un dépistage qui pourrait être itératif, dans le sens qu'on va la répéter, par exemple, chaque semaine, pour pouvoir isoler, déjà trouver les cas positifs. C'est très difficile parce que pour les enfants qui font des formes plus largement asymptomatiques, on les trouve pas si facilement, et donc trouver les cas positifs, les isoler, et donc continuer à garder l'école en présence.
Mais tester plus. Il faut tester combien de fois par semaine pour que ce soit efficace?
Ça dépend de la participation. Alors nous, on a fait une étude avec un modèle mathématique en collaboration avec Alain Barra au CNRS, où on a identifié, par exemple, que si on a un taux de participation qui est autour de 75%, ce qu'on a trouvé sur le terrain avec les tests salivaires, on pourrait tester une fois par semaine et réduire le nombre de cas de 50%, qui est très élevé par rapport à ce qu'on estime on est en train de faire avec le protocole aujourd'hui mis en place.
Je voudrais passer à la vaccination. Est-ce qu'il faut ouvrir la vaccination à tous? Alors peut-être pas aux enfants et aux plus petits, mais on voit bien qu'il y a des créneaux libres partout. Est-ce qu'il faut avancer l'âge de la vaccination?
La priorisation sur âge et comorbidité a l'avantage de pouvoir cibler tout d'abord les personnes qui sont plus sujets, plus à risque de faire des formes graves, et donc éviter leur passage à l'hôpital et puis à réanimation, et les protéger par des formes qui sont sévères. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on voit bien qu'il y a un certain Et c'est ancien anglais, donc ça veut dire une certaine défiance par rapport à certains vaccins, notamment AstraZeneca. Et là, il faut être aussi assez clair, le fait qu'on a changé les protocoles pour l'administration de ces vaccins n'est pas parce qu'on s'est trompé, mais parce qu'on a acquis des connaissances au cours du temps. On a évalué les risques, les facteurs des risques pour faire pour avoir des complications après l'administration de ces vaccins. Et donc, les agences ont établi ces nouveaux niveaux 55-1 pour administrer ces vaccins qui restent, d'un point de vue des risques, très avantageux pour les personnes. Donc là, il faut insister.
Il y a une question aussi qui revient souvent, c'est est-ce qu'on a raison de s'inquiéter des nouveaux variants? Je pense notamment aux Brésiliens et Sud-Africains. Et est-ce que les vaccins sont efficaces contre ces formes-là?
Alors, on a depuis longtemps maintenant les variants sud-africains et brésiliens sur les territoires français. Et ce qu'on a vu ces derniers jours est qu'il y a eu une augmentation de la fréquence de ces variants sur les territoires. Là, il faut distinguer plusieurs situations. On a des départements où cette augmentation a été très très forte, mais les pourcentages sont un peu trompeuses dans les sens qu'on regarde, par exemple, des cas qui ont été trouvés dans les cadres de clusters et sur des populations, des départements à très faible population. Donc, si on fait les rapports, on trouve des pourcentages qui vont grimper inévitablement à cause des effectifs qui sont très petits. Par contre, en Île-de-France, on a aussi vu une augmentation de ces variants. Et ce qu'on attend est d'avoir l'enquête flèche avec les séquençages complets.
L'enquête flèche, c'est quoi?
L'enquête, alors on enquête parce qu'on trouve les variants dans ces deux situations. On peut trouver les variants avec des tests de criblage, donc ils vont reconnaître une mutation qui est commune aux deux variants, mais on ne sait pas exactement qui est qui. Donc, et il peut y avoir aussi d'autres souches qui sont porteurs de cette mutation. Avec un séquençage, on peut, l'enquête flèche, on peut distinguer
est-ce
exactement.
Est-ce qu'ils sont dangereux, ça sera ma dernière question, est-ce qu'ils sont dangereux?
Alors, on sait qu'il y a un avantage de transmissibilité, peut-être plus faible par rapport à celui anglais, qui domine aujourd'hui en France. Et l'aspect qui nous inquiète est vraiment la possible perte d'immunité, soit immunité acquise après l'infection, soit immunité avec la vaccination, surtout avec certains vaccins.
Merci beaucoup, Vittoria Colizza.
Merci à vous.
La descente est très très lente, vient de nous dire Vittoria Colizza, parce que les mesures sont moins strictes que lors du premier confinement. On gagne en liberté, mais avec des contraintes qui durent plus longtemps. Et enfin, pour l'école, un dépistage chaque semaine peut permettre d'isoler et de réduire la circulation de 50%. L'intégralité...